gas au fond ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, les Lévi-Rundfunk-Zuhörer von unserem Sender, glänzende Sender Welle 102.9. Un peu de dialecte pour démarrer mon billet, fais-moi une place, ça fait du bien dans le dedans de soi, notre Mutterspruch. Ce beau matin de juin, je reçois un invité prestigieux pour qui j'ai un immense respect, une admiration sans borne. Un homme de cœur, une sommité internationale dans l'art culinaire. Nous avons cette chance, les grandes oreilles, et oui, de l'avoir dans notre studio et vous dans votre poste radio. Il vient tout spécialement ce beau matin, ce bon matin du 6-8 de Hilhuizen dans le Haut-Rhin. Vous l'avez tous reconnu, mon invité, c'est le grand Marc Eberlin, grand par sa taille déjà, pardon Marc, de l'Auberge de Lille, ce paradis des gourmands et des gourmets. Bonjour Marc, salut Marc.
Bonjour Wigetz. André.
Nous très sommes bien. Tous très heureux de t'avoir à nos côtés devant cette forêt de micros. Grand merci d'être venu de si loin du Haut-Rhin.
Merci, c'est un plaisir d'être là. Merci.
Ben moi aussi, ça me fait plaisir que tu sois là. Toute la maison ici à Radio Jolica, on est heureux de t'avoir. Alors dis-moi, comment tu gazouilles dans ton quotidien, dans ton monde ?
Comment je gazouille, ouais, comment je parle.
Comment tu parles, comme les oiseaux, je sais pas.
Malheureusement, de plus en plus le français, parce que l'alsacien, j'ai plus beaucoup qui le parlent et qui le comprennent, mais je vais très bien, je me porte très bien, tout va bien.
Mais ça se voit, t'as l'air affûté, t'as l'air
on
heureux.
On essaye d'être en forme.
Et puis voilà, tu fais du sport, t'es un peu sportif.
Rien du tout,
t'as
rien
pas le
du
temps.
Tout.
T'as non, pas le temps.
J'ai pas le temps.
Alors Marc, tu es l'héritier de 3 générations de cuisiniers et cuisinières. En fait, tu représentes la quatrième ?
La quatrième, tout à fait. Ma sœur et moi, on est les quatrièmes à avoir repris l'Auberge de Lille après l'arrière-grand-mère et l'arrière-grand-père, grand-père et grand-mère, mon père et mon oncle, et voilà.
Et en fait, c'est ton tic-tac-pababa, comme on dit en alsacien, qui a régalé et proposé la fameuse matelote et la meringue en dessert dans les années 1882.
C'était son épouse, c'était pas lui qui était au fourneau. Lui, il était paysan, comme mon grand-père aussi. Et c'est les femmes qui étaient au fourneau à l'époque.
À l'époque, c'était comme ça, dans les grandes maisons.
Mais oui, c'était ça.
C'est comme ça que ça démarrait, même.
C'était un bistrot de village à l'époque.
De village. Et chez les Eberlin, votre force, c'est le sens de la famille, c'est la famille.
Oui, tout à fait.
D'être lié comme ça.
Oui, on travaille en famille, c'est sûr.
Et c'est toujours aller vers l'excellence, c'est une belle réussite quand même.
C'est ce qu'on a toujours essayé de faire, d'aller vers l'excellence et de garder l'auberge à son niveau.
Et déjà, quand tu étais jeune homme, tu étais déjà haut comme trois pommes. T'allais dans la cuisine avec ton père et ta maman.
Je donnais des petits coups de main, je dépluchais des légumes.
Des patates, compères.
Des légumes, vider des truites, parce qu'à l'époque, la truite au bleu était à la carte.
Ah ouais.
Et donc, on allait pêcher la truite dans un bassin, à l'épuisette, et puis je les vidais.
Et c'était ton travail.
C'était mon boulot quand je...
Ouais, c'est... Alors Marc, tu ne voulais pas être cuisinier. Je crois que tu avais envie d'être garde forestier ou garde chasse, c'est ça, c'est vrai ça ?
Au départ, oui, parce que tout petit, j'allais toujours chez le garde chasse et qui avait beaucoup de chiens et d'animaux, même des cigognes en captivité. Donc ça m'attirait un peu, il m'emmenait me balader dans la forêt.
Dans la nature, voilà. Ouais. Et tu aimais cette
j'aimais
balade
J'aimais ce contact avec la nature, oui, tout à fait.
Et le travail du garde-chasse, c'est quoi ? C'était
garder le cheptel, et puis surtout de réguler un peu le gibier.
Le gibier, ouais.
À l'époque, il y en avait beaucoup plus que maintenant encore.
Ouais, c'est vrai. Surtout qu'il y en a beaucoup du côté d'Hilhuizen, là, dans le Ried.
Oui, dans la plaine, on a surtout du chevreuil.
Du chevreuil, ouais.
Et
ouais.
Puis le lièvre, on n'en a quasiment plus, malheureusement.
Et tu aimes la nature ? Tu aimes te balader dans cette nature ?
Oui, j'aime toujours la nature. J'ai pas le temps de me balader souvent, mais avec Isabelle, mon épouse, on va souvent se balader en montagne, en forêt, ou dans la vallée de Münster. Ou...
Et des Schwarzwald à Mönchengladbach.
Schwarzwald aussi, des fois. Ouais, et puis au-dessus de Ribeauvillet, avec plaisir.
Ouais, c'est vrai que c'est pas loin, en fait.
Au Schlüsselstein, là, autour de Schlüsselstein et des Trois Châteaux.
Ça te ressource un peu, cette balade,
oui,
cette forêt.
Ça ressource, et ça... Moi, j'en fais pas tous les jours, mais j'aime bien aller me promener.
Oui, bah, et après, tu as fait tes classes de chef dans les maisons prestigieuses.
Oui, d'abord à l'école hôtelière de Strasbourg, qui était en ville à l'époque.
Ouais.
Et puis ensuite, chez Lasserre, chez Bocuse, chez Trois Gros, chez Gaston Lenôtre, un peu à Paris. Et puis un peu en Allemagne, à l'hôtel Erprinz, à Ettlingen, qui était à l'époque le seul deux étoiles en Allemagne.
Ah oui, il y avait un deux étoiles à ce moment-là. Ouais. Et là, tu as appris beaucoup de choses,
là,
bien sûr.
Partout.
C'est là que tu t'es formé.
C'est comme ça que tout le monde se forme, tous les cuisiniers, même à l'heure actuelle. Le plus important et le plus intéressant, c'est de faire différentes maisons.
Ben oui.
Pour apprendre différentes techniques, différents styles de cuisine, et après, on arrive à faire la nôtre.
Et après, tu t'es lié d'amitié avec Serge Dups, amoureux de la bouteille et du ballon.
Voilà, tout à fait, Serge était, est toujours, il vient toujours encore le week-end nous donner un coup de main à l'auberge, mais on s'est connus chez Lasserre à Paris, où lui était jeune commis en restaurant, en sommellerie, et puis il a eu la passion du vin. Et bon, il a réussi à être meilleur sommelier du monde.
C'est génial,
il a rappelé tous les concours. Et depuis, il n'a pas quitté l'auberge.
Il n'a pas quitté.
On a fait plusieurs fois le tour du monde ensemble pour des dîners ou des choses.
C'est une belle amitié, une belle aventure.
On a toujours cette grande amitié avec Serge.
Ouais, c'est bien, ouais. Et c'est aussi un métier qui t'a permis, Marc, de voyager, d'aller à l'autre bout du monde, et d'avoir un regard neuf en cuisine, d'aller...
Ah oui, tout à fait. De voyager, c'est important de voir. J'ai fait beaucoup, à l'époque, dans le temps, des semaines gastronomiques, que ce soit aux Philippines, même en Iran, du temps du Shah. Mon père m'avait envoyé en Iran cuisiner pour la Chabanou et la famille du Shah.
T'avais quel âge à cette période ?
J'avais 22, 23 ans.
Ouais, 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 déjà.
C'était et puis après la Thaïlande m'a beaucoup influencé, puis le Japon, on a restaurants au Japon encore actuellement.
Et qui s'appellent comment ces restaurants ?
L'auberge de l'île de Tokyo, Sapporo et Nagoya.
Waouh !
Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Israël, dont la première fois c'était en 96 pour le dîner des 3000 ans de Jérusalem.
Waouh !
Où on était 12 ou 11 ou 12, je me souviens plus, chefs du monde entier à faire chacun un plat. Et c'était la première fois qu'un repas gastronomique a été fait de façon cachère.
Cachère, ah ouais. Et alors, c'était quoi les plats que tu faisais ? C'était
alors moi,
de la
à l'époque,
viande ?
J'avais fait la viande. J'avais fait, je me souviens, une côtelette d'agneau en strudel avec une compotée de pommes de terre et olives. Et puis, tout ça, ça a été fait selon la cacheroute, avec des rabbins qui nous surveillaient. C'est toujours intéressant d'aller en Israël parce que c'est un pays magnifique et
c'est
très dynamique.
Ouais, c'est vrai. Et alors, tu as fait manger pour qui ? Alors, pour les chefs d'État ?
Non, c'était des gens... Bon, il y avait les chefs d'État qui étaient là. Il y avait... je crois que c'était le Premier ministre à l'époque qui était là.
Shimon
Peres, de Jérusalem.
C'était
Shimon Peres aussi. Ouais. Et puis, il y avait déjà le maire de Jérusalem. Et à côté, tous les bénéfices de la soirée servaient à financer une école chrétienne, juive et arabe.
Ah oui. Et c'est compliqué.
Et c'est à l'origine, c'est Shalom Kadosh, qui est un peu le
chef
israélien, qui était le chef le plus connu, et qui est maintenant malheureusement à la retraite, mais avec qui j'ai gardé toujours une... des plus belles amitiés depuis longtemps. Il a travaillé chez mon père à l'époque.
À l'Auberge de Lille, il a travaillé.
À l'Auberge de Lille, quand il était jeune. Et on est toujours restés comme des frères, presque.
Extraordinaire, ça, les relations que tu as eues avec les gens. Alors, tu as aussi rencontré d'autres personnes du monde entier. Attends, on va te mettre une petite musiquette avec Thomas. Mets-moi voir la petite musiquette, là, la musiquette 1, Johnny Hallyday.
Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon...
Quelle carrière, ce Johnny Hallyday.
Ah, quelle carrière et quel homme.
Tu l'as bien connu, hein.
Ça reste le patron, je crois, pour beaucoup de chanteurs.
Bien sûr.
Et il avait une aura incroyable. On avait la chance de plusieurs fois l'avoir à l'auberge. Il venait déjà tout jeune quand il faisait son service militaire...
Ah, il avait déjà les moyens pour venir manger chez
vous. Oui, il chantait déjà. Et il rencontrait Sylvie en cachette. Il arrivait habillé en militaire. Il se changeait dans les toilettes et puis ils allaient manger. On a d'ailleurs une très belle photo. Ils sont tous les deux, tout jeunes, à table. Et ensuite, il est revenu régulièrement. On lui faisait chaque fois. Lorsqu'il avait un concert en Alsace, après le concert, il arrivait vers minuit. Et on lui faisait à manger. Et il avait un cœur extraordinaire. C'était quelqu'un qui invitait encore tout le monde. Ils étaient 20, 25 le soir, avec tous les choristes, tous les musiciens, l'impresario, évidemment, Camus à l'époque. Et puis, et Johnny Stark au début. Il avait Johnny Stark. Johnny Stark venait avec lui aussi. Et quand il y avait la foire au vin à Colmar ou des...
Bah, tu les as tous reçus, ces artistes. Ouais. Ouais. Tu as reçu qui d'autre encore comme...
Plein. Je sais pas, régulièrement, là maintenant. Mika vient régulièrement. Ah, ouais.
Parce que quand il est en concert en Alsace, ils viennent toujours. Oui. C'est des gens différents des autres.
Non, des gens très... Alors Johnny, c'est sûr, il arrivait après le concert, fatigué, épuisé, et c'était différent. Mika reste 2-3 jours en général, donc il est plus
reposé. Il reste un peu chez toi, voilà. Ouais, c'est bien de rencontrer tous ces artistes. Et puis après, tu as rencontré des présidents, des princesses,
on a eu beaucoup de personnes, de monde. Que ce soit des présidents, des princes, des rois, le roi de Suède qui... Quand il va dans le sud, quelquefois, il s'arrête.
Il s'arrête chez toi. Alors, tu les reçois des fois derrière la cuisine où tu as un petit bureau
où ils mangent
avec une belle table où tu nous avais déjà invités quand on tournait le Goethe à l'époque.
Oui. Et c'est une table sympathique et les gens aiment bien voir la cuisine.
Alors, revenons un petit peu à l'Auberge de Lille. Effectivement, quand il y a le coup de feu à 11h, à 11h15 ou 11h50...
C'est plutôt midi, partir de midi.
C'est à midi que ça démarre, le coup de feu.
Oui, le coup de feu, c'est vers midi et demi, 1h.
Et alors là, c'est stressant? Comment ça se passe?
Non, il ne faut pas que ce soit stressant, mais il faut beaucoup de concentration pour que toute l'assiette soit terminée en même temps, aussi bien les garnitures que la viande, que la sauce.
Donc chacun a son poste.
Chacun sait ce qu'il a à faire et puis... Il faut qu'à la seconde près, ça soit sur le pass.
C'est en espace de très peu de temps, il faut que tout soit prêt, ça doit aller vite, il ne faut pas que ça traîne, quoi.
Non, faut surtout les plats chauds, quoi.
Alors, il y a beaucoup de préparations avant, j'imagine.
Il y a des préparations avant, mais tout est fait au dernier moment, cuit au dernier moment.
Et là, vous êtes combien en cuisine autour du piano?
Actuellement, on est 25, 26 en cuisine avec les pâtissiers.
Avec les pâtissiers, parce que tu as un nouveau pâtissier, là,
oui,
je crois. Christophe est parti
à la retraite,
que j'ai bien connu.
Fischer, et puis c'est Pascal Hennig qui nous a rejoint, qui a commencé sa carrière chez nous comme apprenti. Et il y a 2 ans, on s'est rencontrés, il m'a dit, écoutez, je voudrais bien revenir travailler pour vous. J'ai dit, mais avec grand plaisir, ça tombe bien. Ouais. Et c'est un pâtissier d'une grande pointure.
Qui a déjà eu des distinctions 4-5 au Michelin,
ans.
J'ai vu. Hein.
Oui, il a eu pendant 4-5... Il a été nommé dans les pâtissiers de l'année cette année. Et il a été le chef... Avec son chef, c'était Éric Fréchon, il a été le chef pâtissier du Bristol à Paris.
Waouh, ouais, oui. Alors, je sais aussi que dans la cuisine, il y a un respect incroyable. Tout le monde t'appelle Monsieur Marc, chef. Il n'y a pas de familiarité en cuisine.
Non, mais ça, c'est propre au monde de la cuisine. Dans toutes les cuisines, le chef, on l'appelle chef ou alors monsieur. Chez Bocuse, on appelait... Monsieur Paul, toujours Paul
comme ton
Bocuse,
papa aussi, c'était
pareil, Monsieur Paul, ou chef. Et puis chez Trois Gros, c'était chef Pierre, chef Jean. À l'époque, les deux frères étaient réunis.
Et alors, quand les commandes pleuvent, là, il faut que tout le monde mémorise.
Il faut rester concentré, oui, pour ne rien oublier, aucun plat, pour que toute la table soit servie en même temps.
Parce que là, vous changez de carte régulièrement?
Quatre fois par an.
Et là, au mois de juin, c'est quoi? Tu changes...
Là, maintenant, on va mettre la carte d'été en route, à base de légumes d'été. Il y a le gibier qui arrive, le chevreuil est ouvert en Alsace. Oui, du ride. Il est ouvert depuis le 15 mai, là, donc on va mettre le chevreuil à la carte.
Et alors, c'est quelque chose qui est spécialement demandé? Tu as une clientèle spéciale qui vient manger ça?
Non. Pas spécial. Il y a des gens qui font la route pour manger un plat, mais disons, Non, non, les gens viennent régulièrement, printemps, été, automne, hiver.
Alors c'est vrai qu'on a, en été, quand je me souviens de cette belle terrasse, quand on prend l'apéritif dehors, oui. Dans ce beau décor, sous ces arbres, les sols pleureurs, c'est t'as agréable, aussi un c'est magnifique vrai. Jardin dans...
Oui, on c'est... a un beau jardin, et puis...
Qui est bien entretenu.
Huberstein qui s'en occupe à merveille depuis bien des années.
Ouais, c'est un tout l'auberge, c'est... rien n'est laissé
au
hasard.
Pour moi, un restaurant doit être un ensemble, ça doit être aussi bien la cuisine que le service, la sommellerie, le cadre. Pour moi, le cadre est important également.
Et là, les gens, depuis quelque temps, peuvent dormir là-bas parce que vous avez un hôtel de luxe.
Puis, on a un hôtel 5 étoiles qui est tenu par mon neveu et puis mon beau-frère.
Par Édouard et Marco.
Voilà. Ouais. Et qui font un travail remarquable et qui est situé au fond du jardin.
Ouais, puis, vous avez aussi cette caravane américaine là,
oui, qui est au fond du jardin.
Que vous louez de temps en temps aussi.
Oui, il la loue, mais je crois qu'il a arrêté. Je crois qu'il y a eu des problèmes d'étanchéité, choses comme ça. Il a dû arrêter.
Et il y a cette petite maisonnette de pêcheur également,
oui,
là, qui est magnifique. Ouais. Ben écoute, on va se reposer un tout petit peu les oreilles. Et tu m'as demandé Nora Jones, que tu aimes bien.
Voilà.
Et c'est une dame pourquoi tu aimes bien cette musique?
Mais j'aime bien cette musique et j'aime bien sa voix surtout.
Elle a une voix magnifique.
Et puis
elle vend des disques. Oui, oui. Je crois que ce disque qu'on va écouter, elle l'a vendu à 22 millions, je crois.
Ça, je pourrais pas te dire.
Vas-y, voir Thomas, mets-nous voir ce beau disque.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high.
Quelle voix charmante, hein.
Magnifique,
c'est du
magnifique.
Jazz, de la country,
ouais,
du blues, tout est mélangé,
tout.
Quoi. C'est vrai que c'est une dame qui est très très connue, hein, qui a vendu énormément de disques. Alors, on écoute une belle petite musiquette, ce qui me fait penser aussi au Hara, qui est un endroit exceptionnel,
oui.
où ton gendre,
Maxime, dirige
cette
ça
belle
de
maison
de maître depuis maintenant 2013.
Ouais. Et les Américains ont appelé ce resto un des plus beaux restos du monde, c'est vrai?
On a eu il y a un classement par an, en 13 ou en 14, quand on avait ouvert, il y a un classement des plus beaux bars et restaurants au monde, et par une revue hôtelière, et puis
américaine.
On a été classé anglaise, crois que c'était
d'accord.
Anglaise, et on a été classé plus beau cadre au monde.
Ouais, c'est un endroit
des restaurants
exceptionnel.
À Dubaï, à Singapour.
Je me souviens de cette bonne petite recette que je mange de temps en temps avec les gousses de grenouille. Il y a le vol au vent avec les gousses de grenouille.
Et c'est Patrick Join, le designer, et Sanjid Mankou qui ont fait tout le travail
de la
conception.
Ah ouais, cet escalier qui...
C'est magnifique.
Des fois, je plains les serveurs qui montent à bas de course.
Oui, il y a aussi des montes charges.
Il y a aussi des montes charges, Mais ça grouille, hein.
Et
puis c'est François qui est au...
C'est François, le chef, qui est un ancien de l'auberge.
Et c'est comme un fer à cheval, je crois.
Oui, le bar. Et la cuisine, oui.
Et la cuisine, c'est vrai que c'est magnifique, les Haras. C'est un bel endroit.
Oui, il y a une belle équipe.
Tu y vas de temps en temps,
oui, j'y vais régulièrement.
Pour goûter des plats,
pour voir ce qui va ou ce qui va pas.
Et ça tremble un peu quand tu arrives?
Je ne sais pas, mais non, je ne vais pas les stresser.
Non, tu ne les stresses pas, oui. Alors, on va aussi parler de quelque chose qui est un peu plus malheureux. Je sais qu'un jour, vous avez perdu la 3e étoile. Et quelle injustice d'avoir perdu cette 3e.
Oui, c'était très
dur. Et pour quelle raison? On ne connaît pas la raison.
Ah ben la raison, là, ce n'est pas vraiment, mais disons... c'était très difficile parce que j'étais prévenu la veille de la sortie du guide. Donc, en plein service, un dimanche midi, quand on t'annonce ça au téléphone...
Waouh, ça devient déprimant, non?
Je me souviens, j'ai ramassé une partie de l'équipe à la petite cuillère.
Ah ben ça, j'imagine,
Ils étaient accroupis dans des coins, certains avaient les larmes aux yeux.
Qui pleuraient, quoi. Ouais, parce que vous vous donnez à fond,
Mais on se donne à fond, bon, c'est sûr, c'est le...
Et puis...
Alors, Michelin... Michelin te disent étaient là deux, trois fois. Tu ne peux pas vérifier combien de fois ils étaient là. Et y a eu des petits... Mais ils ne se disent pas quoi.
C'est
vraiment.
Depuis qu'ils ont changé de direction, non ? C'est peut-être depuis ce moment-là qu'ils ont dégradé plein de... Comme Vera, comme d'autres personnes.
Vera, c'était en même temps.
En même temps, ouais. Et puis là, aujourd'hui, c'est le Bubu qui a perdu. Eric Westermann.
Alors qu'Eric Westermann faisait une cuisine extraordinaire.
Exceptionnelle.
Moi, j'ai toujours dit, Eric, pour moi, méritait 2 étoiles.
Ah oui, absolument, je pensais aussi. En plus, il a fait plein de travaux, il a embelli comme toi également.
Je ne sais pas ce qu'il y a eu Il te donne des explications, mais toujours plus ou moins vagues.
Je me demande un peu si on n'est pas un peu les mal-aimés de ce Michelin, l'Alsace, parce qu'on mérite quand même 3 étoiles.
Il ne faut pas oublier, pendant plus de 20 ans, on avait 3 étoiles.
Ouais,
il y avait Emile Young, Antoine Westermann et nous.
Et toi, tu les avais 50 ans.
51 ans.
Tu t'imagines
si
ton papa a pris ça là-haut, qu'est-ce qu'il devait être malheureux,
bon,
je pense.
Ouais,
c'était triste.
Il n'était pas foncièrement attaché à la 3e étoile. Ouais. Papa m'a toujours dit que l'essentiel, c'était les clients.
Les clients, ouais.
Et que c'est vrai, on est là avant tout pour... Parce que d'ailleurs, papa, au début, quand il l'a eu en 67, il ne la voulait pas. Il aurait dû l'avoir un an plus tôt. Mais il avait tellement peur de perdre ses clients habitués.
Et aujourd'hui, ça change quoi de l'avoir
Pour le moment, je touche du bois. Tout va bien, les gens. Au contraire, on a eu un soutien incroyable de la part des clients. C'est ce que Guy Savoie, quand il a perdu son étoile l'année dernière, il m'a tout de suite téléphoné, il m'a demandé comment ça se passe, si tu as perdu des... J'ai dit non, pas du tout, tu vas voir, tu as un soutien. Et effectivement,
bien sûr, les gens se sont mobilisés. Tu penses qu'un jour, elle reviendra,
toujours ça dans la tête.
Elle reviendra. Tu l'attends, cette troisième étoile ?
Je l'attends toujours, évidemment. Ouais. On a toujours ça au fond de la tête et on travaille tous les jours pour. Mais quand je vois il y a une autre direction Michelin actuellement qui est plutôt très locavore avec le jardin, avec le...
Ouais.
Et ce que nous, on a quand même...
Mais le guide Michelin se vend de moins en moins, je crois. Ça marche de moins en moins bien.
Non, mais le guide, effectivement, mais la renommée du guide Michelin,
est toujours là,
dans le monde entier. Ouais. Les livres, évidemment, les guides se vendent moins. Il n'y a que les restaurateurs, les collectionneurs les amateurs qui vont l'acheter.
Maintenant, pas aller sur Internet ou sur
Google.
Mais
il y a 20-30 ans, quand le guide Michelin sortait, dans le classement des livres vendus dans les librairies, c'était le guide Michelin en tête pendant 1 ou 2 mois.
C'est ça, ouais.
Mais cette époque est finie. Il y a Internet, les jeunes n'achètent plus de papier, ils vont voir. Ce qui n'enlève que le guide Michelin a une renommée à travers le monde qui est indéniable.
Ouais, c'est vrai qu'en Allemagne, comme en France...
Dans le monde entier, ils ouvrent des pays où jamais il y a eu de guide Michelin.
Oui, c'est vrai. Et après, la vie continue quand même, malgré ce moment désagréable.
Et on se fait toujours plaisir, et j'espère qu'on fait toujours plaisir à nos clients.
Bien sûr, il n'y a aucune raison. Ouais. Marc, en fait, je voulais te raconter une petite anecdote.
Dis-moi.
Pendant qu'on était en tournage chez vous. Je me souviens d'une anecdote avec ta maman qui, après le service, les gens cherchaient le pain à table et ils le faisaient macérer un peu dans de l'eau, avec l'émietter.
Ouais.
Et ta maman, à 16h, pour le goûter, partait avec une petite charrette avec
et
ta sœur. Et un seau. Et elle
pour
faisait.
Nourrir les cigognes.
Et nous, on avait filmé ça, elle faisait piou, piou, piou. Et elle nourrissait les cigognes, les ragondins, les oiseaux, les canards.
Oui.
Et je me souviens, je demandais à ta maman, Madame Héberlin, mais est-ce qu'on est fiers de ce que vous avez fait réaliser aujourd'hui ? Elle m'a dit, non, Monsieur Muller, non, André, nous sommes juste tant reconnaissants que les gens viennent manger chez nous. C'est quand même incroyable qu'on puisse dire ça. La humblicité, Marc, c'est incroyable.
Oui, c'est sûr, on est avant tout là pour les clients. Avant d'être là, effectivement, un bel article, une récompense dans un guide, une toque Gomio, une étoile Michelin, ça fait toujours énormément plaisir.
Ça fait connaître, ça fait...
Ça fait connaître.
Maintenant, on vous connaît, tout le monde vous connaît. Tout le monde vous connaît. Et Marc, quand tu voyages, là, tu m'as dit que tu partais dans quelques jours au Japon.
Oui.
Et comment c'est quand tu rentres dans ces restaurants ? Comment tu es accueilli ? Comment les chefs te...
Au Japon,
tu parles le chinois,
le japonais. Oui, j'ai pris des cours de japonais, je ne parle pas couramment.
Parce qu'on savait Chongqing Cholong.
Non, ça t'a échiné ici. Non, mais. Et c'est vrai, depuis. ils ont une telle admiration pour nous, les chefs français. Et au début, c'est vrai, je venais toujours avec Paul Bocuse, on voyageait toujours ensemble, parce que c'est les mêmes propriétaires que les restaurants Bocuse au Japon. Et quand on arrivait, c'était... On était quasiment des demi-dieux.
T'étais chez toi, quoi, là-bas. T'étais chez toi. Et qu'est-ce que tu aimes au Japon ? C'est quoi les paysages ? Alors, t'as le temps de voyager ?
Pas beaucoup le temps, mais quand j'arrive à sortir un peu pour voir la campagne, qui est magnifique, et j'aime la cuisine japonaise, et le saké, et tout ce qui... Et vraiment, j'aime la culture japonaise, parce qu'il y a beaucoup de respect, que ce soit dans un restaurant...
Encore plus que chez nous, quoi.
Dans une gare, dans un aéroport, dans un...
Dans le Shinkansen.
Dans où vous voulez, dans un magasin... Les gens sont très respectueux.
Moi, je me souviens on était dans le Shinkansen pour aller à Nagoya, là où tu as ton restaurant. Il y avait une dame qui venait regarder nos tickets. Elle se prosternait quasiment devant nous, comme un piqué, comme ça. Elle avait les mains comme ça, puis elle se prosternait pour nous demander les tickets. C'était incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça.
Je comprends les Japonais qui arrivent à Paris, Gare de l'Est. Ça les change un peu.
complètement. Je pense qu'effectivement. Alors, à Nagoya, il y a aussi un truc qu'on avait visité, un éco musée qui est un des plus grands du monde où il y a une ferme alsacienne.
Je ne savais pas.
Une ferme alsacienne, si un jour tu as l'occasion d'y aller, c'est peut-être pas très loin de tes restaurants. Et c'est très beau parce qu'il y a une ferme avec des maisons à colombage, avec des canards, une cour, une ferme et avec du vignoble. Et là-bas, il y a des dames qui sont habillées en Mickey, en oreille de Mickey, en alsacienne, des japonaises pour se prendre en photo et tout. Il faudrait que tu ailles visiter ça, c'est vraiment très très intéressant. Bah écoute, Marco, on va écouter la Calas. Je crois que tu m'avais
très
demandé
bien.
D'écouter Calas avant de
avec
finir.
Plaisir,
hein, on va écouter ça, Thomas. On va peut-être couper au meilleur moment, Marc, mais on est obligé parce qu'on est bientôt à la fin. En fait, parle-moi un petit peu de ce projet que tu as à côté. Tu as acheté un presbytère.
Alors, on a acheté le presbytère en face de l'auberge. Et la ville nous a demandé, enfin le village nous a demandé, la mairie nous a demandé de faire un dépôt de pain ou une boulangerie. C'est ce qu'on a fait.
Pour les habitants de Hélas.
Pour les habitants et puis pour les clients aussi.
Pour les clients.
On va en même temps faire un petit commerce de vin, de chocolat, art de la table.
De miel, tout ça.
Épicerie, voilà.
Ouais. Mais tu as le temps de t'occuper de tout ça,
Mais oui, mais je
Tu trouveras le temps.
Bien,
tu trouveras
j'aurai
le temps.
Un jour l'éternité pour me reposer. Bocuse disait toujours, tu sais que tant que tu as des projets, t'es vivant.
T'es vivant, oui, c'est
toujours,
vrai. C'est vrai.
J'ai toujours parti dans cette idée et puis je garde ça comme un peu un fil conducteur.
Bah écoute, en tout cas, ce fil conducteur nous a fait venir. Tu es venu jusqu'à chez nous. Ça nous a fait énormément plaisir de venir à Radio Judaïka. En tout cas, je te souhaite un bel été.
Merci.
Passe un bel été. À très bientôt,
merci,
Marc.
Merci, à très bientôt, André.
Merci beaucoup d'être venu chez nous. Au revoir et merci.
Au revoir.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop.